de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle émission pour faire ensemble avec des chercheurs de tous horizons le tour des questions qui se posent aujourd'hui dans nos sociétés en pleine mutation, au nord comme au sud. Le monde évolue vite et nous avec. Alors comment on fait? Pourquoi c'est comme ça? Et qu'est-ce que ça va changer? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble, chers auditeurs, car vous pourrez vous aussi à votre tour nous poser vos questions sur Internet et via le réseau Facebook. Mais pour poser des questions, pour associer nos idées et chercher des réponses, il faut d'abord qu'on puisse se parler. Voilà pourquoi nous avons choisi pour cette première, avec Pierre Vallée et Guillaume Ploquin à la réalisation, de faire le tour de la question suivante. Pourquoi les hommes parlent-ils? Avec notre invité Jean-Louis Dessalles, bienvenue.
Jeune homme, voulez-vous répéter votre question?
Les adultes parfois me reprochent mon langage, mais je dis non, mais écoute, j'ai le langage de l'amour d'un peuple que je connais bien et dont je connais très très bien le langage, les préoccupations. C'est pour ça que ça accroche bien en général.
Hein? Soyez gentils, je vous demande de parler plus fort, voyez-vous?
Je vous ai compris!
Il est revenu et à la
vous entendez le français? Je vous demande de parler plus fort.
Bonjour Jean-Louis Dessalles.
Bonjour.
Une petite réaction peut-être à ce mix autour de la question « Pourquoi les hommes parlent-ils ?»
Oh, la réaction, c'est que le langage est partout. Nous l'utilisons abondamment. Et il peut avoir des impacts considérables sur nos vies quotidiennes, pas seulement lorsqu'un grand homme nous parle, mais même dans nos conversations les plus banales.
Alors avec vous aujourd'hui, on va tenter de percer un petit peu le mystère des origines du langage, carrément, c'est le titre d'un de vos livres. Vous êtes Jean-Louis Dessalles, chercheur en intelligence artificielle et sciences cognitives à l'école Télécom Paris Tech. Alors selon vous, pourquoi les hommes se sont un jour mis à parler ?
Oh, j'espère qu'on va arriver à une réponse possible au cours de l'émission. Évidemment, j'ai ma réponse, mais il n'y a pas de consensus sur cette question. Il n'y a même pas de consensus sur le problème. C'était même un problème, la question. Pourquoi parle-t-on? Pourquoi notre espèce est la seule à parler et rester dans l'obscurité jusqu'à à peine il y a 20 ans? C'est-à-dire que ça fait à peine 20 ans, 1990, qu'on a eu les premières publications scientifiques sérieuses sur cette question.
Alors avant d'en arriver à cette question, évidemment à cette réponse qui ne sera pas définitive, est-ce qu'on peut dater d'abord? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'est apparu le langage?
Alors là, il y a un consensus sur une chose, à peu près, c'est que le langage tel que nous le pratiquons maintenant, c'est quelque chose d'universel pour notre espèce. Il est exactement aussi vieux que notre espèce, c'est-à-dire donc Homo sapiens. Et Homo sapiens, c'est à peu près 100 000 à 150 000 ans. Voilà. Donc le langage tel que nous le pratiquons, que nous le connaissons maintenant, c'est à peu près cette date-là, 150 000 ans.
Donc il n'y a pas, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'homme sans langage et il n'y a pas de langage sans homme.
Exactement.
C'est trop rapide.
Non, c'est ça. Il n'y a pas d'homme sans langage si on donne à homme le sens homo sapiens. Donc il n'y a pas d'être humain contemporain sans langage. Tous les êtres humains en bonne santé parlent. Et je dirais, j'ajouterais même, parle abondamment.
Parle abondamment, ça on va y venir. Alors comment est-ce que les hommes ont commencé à parler? Comment ont-ils développé cette capacité physiologique? C'est ce que nous allons tenter de comprendre tout de suite avec Pascal Pic, paléo-anthropologue passionné par l'étude des grands singes, et que vous connaissez bien puisqu'il est co-auteur avec vous, Jean-Louis Dessalles, des origines du langage. On écoute Pascal Pic.
Lorsqu'on a fait des expériences chez les grands singes, bien sûr, on s'est bien aperçu qu'ils ne pouvaient pas prononcer comme nous. Donc il y avait un problème de mécanique qui est bien connu, c'est-à-dire le fait que le larynx, là où se trouvent les cordes vocales, se situe en position haute dans la gorge des chimpanzés. comme chez nous lorsque nous étions petits avant l'âge de 2 ans, alors qu'au cours de notre ontogenèse, c'est-à-dire de notre développement et notre croissance surtout, notre larynx s'est enfoncé dans la gorge, ce qui permet donc de moduler les sons, de produire des voyelles et donc cette diversité des phonologies. Bon, mais ça, c'est la mécanique, c'est le moyen. Mais ce qui est important, c'est pour ça que j'évoquais les grands singes, c'est que l'observation de leurs capacités cognitives, de leur mode de communication et leurs comportements sociaux montre que tout ceci, d'abord, doit se concevoir. Et ça, c'est au niveau du cerveau. Donc, au niveau du cerveau, les fondements des capacités mentales ou cognitives qui sont impliquées dans le langage, eh bien, sont déjà partagées avec les grands singes.
Si j'ai bien compris, il aurait fallu inverser la question avec vous et se demander, au fond, pourquoi les grands singes ne parlent pas.
Ben, c'est exactement ça. La vraie question, c'est pourquoi les grands singes ne parlent pas. Alors, un philosophe a répondu à cela. Il avait dit, les grands singes ne parlent pas car ils ne veulent pas qu'on les fasse travailler.
Vous êtes d'accord avec Jean-Louis de Sales? Finalement, nous parlons pour que nous puissions travailler, pour qu'on puisse nous faire travailler.
Oui, on m'avait raconté, j'étais allé en Afrique, et c'était l'an dernier, et on m'avait raconté un mythe un peu semblable, c'est que les singes avaient refusé le langage parce qu'ils ne voulaient pas payer l'impôt. Vous voyez, donc ils étaient donc restés dans la forêt alors que les êtres humains étaient sortis de la forêt pour payer l'impôt, avaient accepté de payer l'impôt. C'est comme ça que la divergence s'est faite. Évidemment, les scientifiques ont d'autres mythes à proposer, hein, mais c'est une excellente question de se demander pourquoi les autres, si le langage est si merveilleux comme nous avons tendance à le penser dans notre espèce, quand nous discutons entre Homo sapiens, à ce moment-là, pourquoi les autres espèces ne parlent-elles pas?
Est-ce qu'il y a une réponse alors, oui, à cette question-là, ou est-ce que les autres espèces parlent à leur manière, différemment de nous?
À la limite, alors maintenant, de manière moderne, on comprend assez bien pourquoi les autres espèces ne parlent pas, et du coup, en miroir, on comprend d'autant plus mal pourquoi notre espèce parle. Pourquoi les autres espèces ne parlent-elles pas? Dans le cadre de la théorie de l'évolution que nous a donnée Charles Darwin, il faut qu'il y ait un avantage à celui qui parle. Et la difficulté, c'est d'expliquer en quoi le fait de donner des informations aux autres, c'est-à-dire dans un contexte darwinien, en quoi le fait de donner des informations à ses concurrents apporte-t-il un bénéfice à celui qui parle? Et ça, c'est très difficile d'y répondre. En général, aucun bénéfice à celui qui parle. C'est pour ça que les autres espèces ne se donnent pas d'informations utiles entre individus.
Et c'est pour ça que le langage est une énigme de l'évolution, en quelque sorte. Et exactement. Parce que, selon ce que vous dites, ça ne sert à rien dans l'évolution, quoique...
Ah non, j'ai pas encore dit ça. Ah. Je suis persuadé que le langage est essentiel dans notre espèce, mais seulement dans notre espèce. Et ce qui vaut pour Homo sapiens ne vaut pas pour le chimpanzé. Mais vous avez prononcé le mot-clé parfait, c'est énigme. Pendant très longtemps, le langage a été considéré comme une évidence. Il faut lui faire changer de statut, il faut qu'il passe de statut d'évidence à statut d'énigme scientifique. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourrait être étudié comme n'importe quelle autre question scientifique.
Parce qu'on n'ose pas l'étudier, parce que le langage c'est nous et nous on est au-dessus de tout
ou... Eh bien peut-être. Moi je me borne à constater que jusqu'en 1990 c'était une question à peu près tabou dans les milieux scientifiques. Et on s'est satisfait pendant longtemps d'espèces de fables non scientifiques, du genre, vous connaissez ça, l'être humain a marché à 4 pattes, puis il s'est redressé, il a libéré sa main, et du coup, avec sa main qui ne faisait rien, il s'est mis à manipuler des outils. Les outils l'ont rendu intelligent, et étant intelligent, il n'a rien trouvé de mieux que de se mettre à jacasser.
Et ça, c'est tout faux.
Hein. C'est tout faux. Je dis pas que c'est. On peut même pas dire que c'est tout faux. On peut dire.
C'est une belle histoire.
C'est une histoire qui n'a pas de fondement scientifique. C'est-à-dire, elle ne repose pas sur des travaux scientifiques. Il n'y a pas de lien causal entre les étapes de ce petit scénario. C'est une histoire qu'on peut trouver pour les livres pour enfants et malheureusement qu'on a trouvé dans des livres aussi pour scientifiques, mais qui n'est pas, ce n'est pas une histoire scientifique.
Et tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quand même que le langage, chez l'enfant, chez le petit homme, il apparaît, et on en revient un petit peu au grand singe, il apparaît quand même physiologiquement à un certain moment d'évolution de l'enfant, mais très tôt finalement chez l'enfant.
Et c'est ça qui est très surprenant, c'est que l'enfant se met à parler, ça se voit, c'est manifeste à l'âge de 2 ans, même s'il a des compétences linguistiques même avant. Et c'est anormalement tôt, si on compare à d'autres capacités cognitives, comme celles qui nous permettent de faire des mathématiques. À 2 ans, l'enfant ne fait pas de mathématiques.
Or, il sait parler, il développe immédiatement le langage, c'est ça.
Immédiatement, c'est d'abord spontané. quand un enfant est en bonne santé dans un milieu qui parle normalement, il attrape le langage. Quand lui enseigne ou pas, on peut même pas l'empêcher d'attraper le langage environnant. Donc ça, c'est un mystère. Il semblerait que dans notre espèce, c'est crucial pour l'enfant, enfin que l'enfant, le petit humain, pour se faire une place dans la société humaine, doit attraper le langage. Donc c'est tellement crucial que ça apparaît très tôt.
Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Bla 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 bla.
Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. 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 Bla 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 bla.
Tu parles, et quand tu meurs, tu parles plus. C'est Philippe Catherine sur RFI, autour de la question « Pourquoi les hommes parlent-ils ?» avec notre invité Jean-Louis Dessalles, chercheur en intelligence artificielle et en sciences cognitives et co-auteur des « Origines du langage ». Alors avant de faire beaucoup de blabla, nous sommes tout de même, c'est ce qu'on vient de voir, la première espèce à communiquer comme ça par le langage jusqu'à ce qu'on meure, comme le dit Philippe Catherine.
Ah, jusqu'à qu'on meure, ça nous rappelle le fait que le problème, comme le rappelle un auteur qui s'appelle Robin Sperling, consiste à expliquer comment on est passé d'un primate incapable de parler à un primate incapable de se taire.
Parce que nous sommes incapables de nous taire.
Ah, exactement.
Hein. Nous sommes une espèce qui pose tout le temps.
Bavarde. Alors, il y a des modulations culturelles. Moi, je viens d'une culture... Je viens du sud-ouest de la France, dans une culture dans laquelle on parle beaucoup, on se bat même pour parler. Et donc, une des questions, c'est de savoir ce qu'on fait avec le langage. Mais il y a quelque chose d'universel. Si on a grandi, qu'on ait grandi comme moi dans le sud-ouest, qu'on ait été élevé au foie gras, ou qu'on ait été élevé au couscous, ou qu'on ait été élevé au sushi, on fait à peu près la même chose avec le langage. C'est essayer d'intéresser les autres. Voilà. Donc, juste pour vous donner une idée, chaque jour, nous prononçons en moyenne 15 000 mots. C'est une moyenne.
Chacun d'entre nous en moyenne. C'est une moyenne. Ce ne sont pas les plus bavards, là.
Non, les plus bavards, c'est plutôt 50 000 mots par jour. Il y en a qui, pour des raisons qui sont moins socialisées, qui vont presque rien dire dans une journée, mais ça donne la dimension du problème. Et ça n'a pas... c'est sans commune mesure avec ce qu'on observe dans la communication animale typique. Pour trouver des équivalents, il faut trouver le chant d'oiseau, par exemple. Alors là, je n'ai pas de données quantitatives, mais vous voyez bien que... Mais qu'un oiseau mâle peut se mettre à répéter son chant des milliers de fois par jour, mais c'est toujours le même.
On dit peut-être la même chose, mais on a beaucoup de mots pour le dire.
Voilà, on est un petit peu répétitif parfois, mais c'est pas aussi répétitif que l'oiseau qui répète vraiment toujours la même chose, du genre « ceci est chez moi, je suis le plus beau, le plus fort ». Il va répéter ça des milliers de fois par jour. Nos messages ont la caractéristique d'être très, très renouvelés. C'est ça qu'il faut expliquer.
Pourquoi? Alors, est-ce que les premiers hommes étaient déjà aussi bavards que cela? Quelle était d'ailleurs la première langue qu'ils parlaient, la langue d'Adam, pour reprendre le titre du dernier livre d'un éminent linguiste, Derek Bickerton, que vous avez d'ailleurs préfacé, Jean-Louis Dessalles. Alors, Derek Bickerton est professeur de linguistique à l'université de Hawaï, et je lui ai demandé à quoi pouvait bien ressembler cette langue d'Adam, cette langue originelle des premiers hommes.
C'est difficile à dire. C'est quelque chose qu'on n'aurait probablement pas pris pour du langage. On ne sait pas vraiment en quoi ça consistait, si c'était des sons ou des gestes. Peut-être un mélange des deux, des sons et des gestes qui avaient un sens, avec probablement des imitations de sons d'animaux différents. Je pense que le langage est apparu parce que les hommes devaient communiquer à propos des carcasses d'animaux qu'ils trouvaient. Ils rôdaient autour comme des charognards, et il n'était pas possible pour ces hommes d'avoir accès à ces carcasses tant qu'ils n'étaient pas assez nombreux autour de cette nourriture. Car il y avait une énorme compétition entre espèces autour de cette nourriture. Il y avait des lions, des tigres et des ancêtres de tous ces grands animaux qui défendaient leur proie en se massant autour. Donc, la seule manière pour les humains d'accéder à ces ressources de viande était de réunir assez de monde autour, mais comment faire pour rassembler les vôtres sans les appeler et leur dire de venir? En plus, ça pouvait se passer à des kilomètres de distance. Un des membres du groupe avait pu repérer une carcasse et avait besoin de le dire aux autres, plus tard et à un autre endroit. Et du moment qu'ils ont réussi à le faire, je ne vois pas pourquoi les humains n'ont pas commencé à communiquer sur d'autres domaines également.
Jean-Louis Dessalles, la langue d'Adam, vous êtes d'accord avec ce qu'en dit le linguiste Derek Bickerton?
Tout d'abord, ça fait plaisir d'entendre la voix de ce grand monsieur. Je parlais de 1990, l'année où cette question de l'origine du langage a vraiment éclos, et il en est un des responsables. C'est qu'en 1990, il a publié un superbe livre sur la notion de proto-langage.
C'est-à-dire le premier langage, le langage originel, ce qui était avant le langage.
Ce qui était avant le langage, c'est-à-dire sans doute pour l'espèce qui nous a précédés. Donc est-ce que c'était Homo erectus, Homo ergaster, enfin au moins un intermédiaire plausible entre le langage que nous connaissons et la communication animale.
Et ce proto-langage, il s'inspirait aussi peut-être du pidgin, disait-il.
Voilà, il s'est fondé sur l'étude des pidgins. C'est des langues sans grammaire que les adultes sont obligés de parler quand ils sont ensemble et qu'ils n'ont pas de langue commune. Donc ils apprennent quelques rudiments de lexique. Ils se mettent à parler un langage à la Tarzan, qui est ce qu'on appelle un pidgin. Et ça a donné l'idée à Bickerton que cela pouvait être à l'image de la manière de communiquer de nos ancêtres, donc pas les sapiens, ceux qui nous ont précédés.
Avant même les hommes, ils parlaient déjà. Alors pourquoi et comment sommes-nous devenus une espèce communicante et qu'est-ce que ça dit de nous? Vous restez avec nous. Jean-Louis Dessalles, on se retrouve tout de suite dans 3 minutes, juste après le point d'info pour continuer notre tour de la question. Pourquoi les hommes parlent-ils ? À tout de suite.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.